Alfred et Mbushima au Kassai oriental. J'ai refusé totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous, si vous nous rejoignez sur Radio Okapi, bienvenue dans Parole aux auditeurs, votre magazine d'échange citoyen. La proposition du nom du nouveau président de la CENI, mercredi 21 octobre dernier, n'a pas fait l'unanimité. Selon l'Église catholique du Congo, des divergences profondes, non vidées, ont apparu entre les confessions religieuses lors de leurs échanges au centre interdiocésain, le lundi 19 et le mardi 20 octobre 2015. Elle portait sur les principes majeurs à respecter avant de désigner Corneille Nangaa. Compte tenu du manque de consensus autour des critères de choix du successeur de Malumalu, la CENCO souligne avoir refusé de prendre part au vote. Par conséquent, elle ne se sent pas liée à l'option levée par les autres églises. Certains observateurs estiment que les contestations qui sont chaque fois liées à la désignation du président du bureau de la CENI pourraient avoir un impact négatif sur la suite et la gestion du processus électoral en République démocratique du Congo. Qu'en pensez-vous? En direct, Sylvain Matundu est en train d'assurer la mise en onde de ce programme réalisé et coordonné par J.R. Lungembo sous la supervision de Leonard Moulamba. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Nous avons en ligne le premier auditeur qui nous appelle de Lubumbashi. Maître Sonville, vous êtes avec nous, bonjour.
Oui, je suis avec vous, Maître J.R. Bonjour, bonjour à tous les millions d'auditeurs de la Radio Pacifique, de la Radio de la Paix.
Vous avez la parole, Maître Sonville.
Oui, par rapport aux allégations, par rapport à la position de certains auditeurs, moi je m'exprime en vrai. Puisque, monsieur J.R., vous estimez que vous n'avez pas une courte mémoire, nous avons vécu le problème de pasteur Mulunda. Si, avant d'y arriver, je dis d'abord que cette désignation, l'Église catholique a pleinement raison. Puisque c'est comme si une partie seulement contre cette partie. Pour l'Église catholique, il a fallu respecter les critériums. Le critérium, c'est quoi? Nous savons que monsieur Nangaa, il a un bon profil. Il a eu à participer dans des grandes élections par-ci, par-là, à travers l'Afrique. Nous le reconnaissons, nous le lui concédons. Mais le plus grand critérium qui a été posé, c'est la probité morale, l'intégrité. Et surtout, si cette désignation vient en amont, et que les autres confessions religieuses, étant en surnombre, sept contre une seule confession religieuse, bon, qu'est-ce qu'on pouvait faire? Qu'est-ce que l'Église catholique pouvait faire? Mais j'ai toujours donné raison à l'Église catholique, puisque l'Église catholique avait refusé même l'abbé Malumalu. Il avait même demandé de démissionner, puisque l'Église catholique n'était pas d'accord avec l'abbé Malumalu. Parce que pour l'Église catholique, c'était même passé des corruptions, comprenez-moi, monsieur J.R. Par rapport maintenant au nouveau candidat, nous avons vécu le cas de pasteur Ngoyi Mulunda. L'Église catholique avait refusé. Mais aujourd'hui, à Lubumbashi, pasteur Ngoyi Mulunda a créé son parti EDG et il a même lancé le message de soutien au président de la République, Joseph Kabila. Alors vous voyez que l'Église catholique avait raison. Il y a même des élections qui étaient chaotiques du temps du pasteur Mulunda, que je respecte tant. Mais aujourd'hui, pasteur Mulunda est en train de tenir des réunions, des meetings au niveau de Lubumbashi pour soutenir le président Kabila. Alors c'est la preuve à suffisance que pasteur Mulunda était du côté du président Kabila. Car de même, il y avait eu des élections chaotiques et il y avait même eu une crise de légitimité. Alors, l'Église chaotique a raison à ce stade-là, puisque ce candidat vient en amont, au lieu de débattre des critères, on l'impose. Et l'Église catholique se trouve minoritaire, a dit, ça ne sert à rien que je puisse participer au chaos du pays, et je me retire. Et voilà, au moins une église qui résonne, qui est du côté de la population. Nous avons vécu beaucoup de problèmes avec nos frères des églises pentecôtistes, des méthodistes, tout ça, beaucoup de problèmes. Mais est-ce que M. Nangaa, il est libre de poser les actions en toute liberté, je m'excuse de la tautologie, est-ce que M. Nanga est capable de contredire le pouvoir? Ça, je me pose la question. Est-ce que M. Nanga est intègre? C'est ça la question que je me pose. Vous comprenez?
Voilà.
Puisque celui qui prendra aujourd'hui la commande de la CENI, il a toute une charge de toute une population derrière sur son dos. Puisque aujourd'hui, au cas où les élections ne s'organisaient pas, au cas où les élections seraient organisées dans un désordre total, M. Nanga, qui est aujourd'hui le président de la CENI, prendra toutes ses responsabilités et toute la population est en train de voir M. Nanga. Puisque nous ne voudrons pas qu'il y ait mort d'homme, qu'il y ait de perte en vie humaine.
Alors,
lorsque les élections soient organisées en bonne et due forme, aujourd'hui, il n'y a même plus de calendrier. On ne sait pas à quelle fin nous vouer. Mais nous avons besoin des élections. Est-ce que M. Nanga, il est prêt à désamorcer cette crise? Cette crise qui se fait sentir au niveau même de la CENI. La question, c'est une question que je pose. J'ai suivi l'évêque Marini. Je m'excuse, hein.
Marini.
J'ai saqué son nom. Il a dit non, vous voyez, c'est un des candidats. Nous avons suivi cet évêque-là quand il fut au niveau du Parlement. Qu'est-ce qu'il a fait?
Oui, maître
l'Église catholique, je ne suis pas.
Oui, maître Soumbi.
Je ne fais pas la publicité de l'Église catholique. Au moins, l'Église catholique tient au moins 60%, mais les gens disent que 40%. Non, l'Église catholique a au moins 60%.
Voilà, alors, maître Sonville, je crois que vous avez eu à brosser quand même des éléments clés de cette thématique. Vous partagez la position donc de l'Église catholique, à croire vos propos, en invoquant les événements passés. Vous estimez que les mêmes causes produisent les mêmes effets et vous êtes référé donc au choix qui a été opéré en 2011 du pasteur Ngoï Moulunda qui n'avait pas rencontré du reste l'assentiment de l'Église catholique. Même scénario pour la proposition pour la seconde fois de l'abbé Apollinaire Balumalu pour la CENI réformée. Vous dites que voilà le fait que cela n'a pas rencontré l'assentiment de l'Église catholique. Cela ne devait pas avoir un impact positif. Vous craignez cela. Est-ce que Fabien partage ce même avis? Merci, Sonville. Fabien, vous êtes à Calémi. Bonjour, Fabien.
Bonjour, JR. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Kaki.
Vous avez la parole, Fabien.
Merci, JR, de vous céder la parole sur les ondes de Radio Kaki. Merci, évidemment, d'avoir accordé beaucoup plus d'importance à ce sujet d'aujourd'hui, outre les mesures captivantes. Je m'en vais directement féliciter les confessions religieuses qui ont pris à grande accélération ces problèmes de désignation du nouveau président de la CENI, bien évidemment. Nous venons tout à l'heure de suivre votre introduction. Il ressort de toute évidence qu'il y a certaines opinions qui estiment déjà lorsqu'en République démocratique du Congo, des contestations se forment. Elles risquent d'influer négativement sur la suite et la gestion du processus électoral. Eh bien, c'est vrai, lorsqu'on ne partage pas un même point de vue, nous sommes en train de nous creuser nos propres tombes pour rien. C'est donc, je peux dire, c'est dans un choc d'idées que jaillit la lumière. Et cette lumière ne pourra pas, bien entendu, jaillir tant qu'il y a des contestations qui ne nous feront pas avancer non plus. Les contestations de ces georgières ne pourront pas nous effrayer. Elles se sont déjà produites il y a de l'urette en République démocratique du Congo. Pour être précis et concis, en 2013, Malumalu avait été contesté par d'autres confessions religieuses. Aujourd'hui, c'est l'Église catholique qui pense que cette désignation est jaillie, est jalonnée par le manquement d'unanimité. D'ailleurs, elle n'a pas pris part au vote. Elle a refusé à l'opinion soulevée par d'autres églises. C'est ce qui nous montre que l'Église catholique est en train de vouloir freiner le processus électoral. Elle voulait qu'on accepte son opinion parce qu'elle est Église catholique. Elle prie Dieu et les autres ne prient pas Dieu. Toutes les 8 confessions religieuses doivent savoir. Elles représentent Dieu. Elles doivent réagir dépendamment du vouloir de la population qui est la voix de Dieu. Cette désignation est un fruit d'un consensus qui ne peut pas être l'objet de controverses. On laisse le temps aux jeunes Corneilles d'éprouver, de montrer aux Congolais combien de fois cet évolu lui a été jeté. Il doit faire montre de sa capacité car elle a été jugée de suite d'un jugement téméraire, de ses compétences, donc. De ses compétences qu'il a en matière électorale. Nous avons suivi tous l'actualité hier. Le parcours de Corneille était le jeu. Il est technicien. Il a assumé d'autres charges au bureau de la CENI. Ceci nous fait dire que nous lui devons certains souhaits de bonne chance. Nous n'allons pas avoir froid aux lèvres de taper du poing sur la table. Qu'il doit être animé d'une bonne moralité et d'une bonne crédibilité. Donc, c'est-à-dire, il doit s'écarter de toute manipulation du pouvoir en place. Cependant, le président de la CENI que nous avons eu à avoir en République démocratique du Congo, ont été conduits par certaines manipulations jusqu'à tel point que nous sommes parvenus à des élections graves et chaotiques.
Voilà, Fabien. Oui, Fabien.
Je pouvais donc la cause voilà, de manipulation, c'est la corruption.
Oui, donc, Fabien.
L'argent
Voilà Fabien, je crois que nous retenons une chose, nous sommes en démocratie, comme vous l'avez dit, c'est la loi de la majorité, ce choix ne peut en aucun cas faire l'objet de controverses. Le fait que le parcours de Corneille Nangaa soit élogieux, il faut désormais regarder de l'avant, que l'optimisme puisse prendre place, en lieu et place donc de scepticisme. Merci beaucoup Fabien d'avoir appelé de Kalemi. On va prendre Franck qui est à Kinshasa. Franck de Vienne, vous êtes à Kinshasa. Bonjour Franck.
Oui, bonjour monsieur le journaliste, bonjour à tous les amis qui se sont déjà prononcés, bonjour également à ceux qui vont intervenir après.
Vous avez la parole Franck, vous avez suivi Maître Sonville qui a retracé un peu l'historique des événements que nous avons connus dans ces processus électoraux, avec plusieurs fois les choix de Malu Malu et une fois les choix d'Ngoï Mulunda, l'église, tous ces choix n'ont jamais rencontré l'assentiment de l'église catholique et selon Maître Sonville, le fait que cela n'a pas produit des bons résultats, on craint aujourd'hui que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Fabien de Kalemi, lui, pense plutôt que ces choix ne peuvent en aucun cas faire l'objet des controverses. Quel est votre avis, Franck?
Oui, merci beaucoup pour l'expression. Nous devons peut-être commencer par nous mettre d'accord que la constitution de notre pays reconnaît pour chaque citoyen la liberté d'expression, le respect des opinions et ainsi de suite. Cela peut être mis au niveau individuel et personnel, au niveau collectif et communautaire, ou par l'entremise d'une structure ou institution ayant en son sein un organigramme ou une certaine hiérarchie. Et par rapport à l'Église catholique, partout dans le monde, nous savons qu'elle a des structures et organigrammes qui fonctionnent de manière ordonnée. Alors, si maintenant l'Église catholique de la RDC arrive maintenant à afficher son opinion publique qu'elle n'a pas participé à l'élection de notre compatriote désigné à la tête de la CENI, je crois que on ne doit pas chercher à polariser le débat ou à les radicaliser pour chercher à tirer des ficelles par-ci par-là. Nous pouvons aussi d'abord nous rappeler qu'en 2011, parmi les composantes de la société civile, l'Église catholique a été l'une des rares à avoir affecté plus de la moitié des témoins dans des bureaux de vote. Alors, je comprends les frustrations et les avis des uns et des autres, mais je crois qu'on ne doit pas seulement radicaliser le débat comme ça pour voir condamner tout ça, mais on doit d'abord chercher à savoir qu'est-ce qui n'a pas marché avant que l'Église catholique arrive à émettre un tel avis. Donc, si on avait suivi la procédure normale, au sein de l'Église catholique, il y a quand même des gens qui raisonnent et qui ont quand même un niveau de conception de très haut niveau. Moi, je crois que le débat ne se situe pas seulement là-bas. On doit chercher à comprendre ce qui n'a pas marché afin que l'Église arrive à émettre une telle opinion. Mais on ne doit pas chercher à diaboliser tout ça. Je crois que le problème, c'est qu'on voit un peu qu'est-ce qui n'a pas marché. C'est vraiment simple. Il y a des amis qui m'envoient des messages avec des teneurs là qui laissent un peu à désirer. Mais l'Église catholique, ce n'est pas un individu, c'est un groupe d'individus, c'est une structure, c'est une institution. Alors, si elle arrive à prendre une position, c'est une position réfléchie et délibérée. Donc, c'est pas seulement l'avis de tel ou de tel, puis à suivre l'intervention du secrétaire général de la CENCO. Elle a bien dit que nous prenons l'histoire pour témoin et nous assumons. C'est clair. Moi, je crois qu'on doit seulement chercher à savoir.
Oui, oui, mais qu'est-ce que cela vous inspire, Franck? Qu'est-ce que cela vous inspire aujourd'hui? C'est la troisième fois qu'on assiste à un tel scénario. C'est seulement l'Église catholique qui est minoritaire sur confession religieuse qui compose au fait les confessions religieuses.
Non, monsieur Gire, je ne pense pas que c'est comme ça qu'on doit interpréter l'attitude de l'Église. Vous pouvez être en équipe même au sein de votre PA. Quelqu'un peut épouser notre point de vue, il peut être de notre avis. Mm-hmm. Seulement ici chez nous, quand quelqu'un est de notre avis, on tend à le diaboliser parce qu'on pense que quand on dit que c'est A, c'est tout le monde qui doit dire que c'est A. Mais quelqu'un peut voir A, alors qu'à côté de A, il y a un I qu'on ne voit pas convenablement, qui peut directement dénaturer la vision de ces A-là.
Oui, mais quand même, réfléchissons un peu, Franck.
L'Église n'est pas favorable pour ce choix. Et elle a dit qu'elle n'est pas favorable. Qu'on respecte la position de l'Église.
Oui,
qu'est-ce qu'il y a fait des amalgames par rapport à une position qui est tranchée et claire?
Oui, mais l'Église évoque le principe majeur qu'on devait définir et pourtant la loi portant organisation de la CENI est claire là-dessus en son article 10. Les principes ont été déjà édictés, étaient déjà énoncés par la loi. Voilà, on a des petits soucis avec la ligne de Franck. Le temps de prendre Maurice qui est à Kinshasa. Maurice, bonjour.
Oui, je te salue, Gérard Longuembo, je salue aussi nos auditeurs de la Radio 4.
Vous avez la parole, Maurice, après avoir écouté les uns les autres qui vous ont précédé.
Je voudrais d'abord vous rappeler que en 2011, l'Église catholique n'avait pas présenté un candidat à la personne de M. Malumalu. Je crois que c'est un bon éclairage que j'aimerais d'abord faire pour... l'ensemble en fait de ceux qui nous suivent à travers notre mission. Mm-hmm. L'Église catholique avait présenté un autre candidat, mais Malumalu a été imposé par les régimes. Ça, c'est bien connu. Donc, il ne faut pas qu'on puisse vraiment biaiser les débats. Alors, je voudrais dire ceci. Je pense que notre mission a un caractère éminemment pédagogique. Je crois que c'est une occasion pour éclairer en fait l'opinion nationale et internationale sur la responsabilité de la CENI. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de la CENI, on parle d'une question éminemment politique dans ce pays. Et c'est la CENI qui est responsable morale et intellectuelle des chaos politiques et électoraux que le pays vit actuellement. Parce que c'est grâce à la fraude électorale organisée, matérialisée par la CENI, en 2006, nous a en fait conduit à avoir en fait le régime qui règne jusqu'à ce jour. Et grâce à la fraude électorale, évidemment, de 2011, que M. Ngoï Moulunda, qui était l'acteur majeur de cette fraude électorale, a lui-même qualifié à travers vos antennes de chaos électoral. Nous attendons la vérité qu'il nous a promis, exposée dans son ouvrage. Alors, donc, lorsque nous parlons de la CENI aujourd'hui, vraiment, nous devons nous départir de toute complaisance, parce que c'est une question qui dérange le pays. Aujourd'hui, le pays est vraiment dans le chaos.
Mais Maurice, totalement agile. Oui, Maurice, vous allez poursuivre. Mais là, je me pose une question. Au moment où, après 2006, tout le monde a décrié les élections, tout ça, qui n'ont pas été crédibles, voilà, on avait exigé la réforme de la CEI. Et on est arrivé à ce format actuel, la CENI. En quoi vos propos, c'est comme si vous réclamez encore une seconde lecture, une réélecture, pour arriver finalement à une autre réforme de la CENI.
Absolument, monsieur Gérard Longuembo. Donc, nous devons passer par la réforme de la CENI. Parce que, aujourd'hui, nous avions, c'est comme je disais tantôt, en 2011, M. Malumalu n'a pas été présenté par la confession religieuse, l'Église catholique avait rejeté la candidature de M. Malumalu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors, cet ensemble-là de confessions religieuses dont vous parlez, vous évoquez la majorité, a décidé, avec Malumalu, comme aujourd'hui, ils ont décidé, ils ont apporté leur candidat dans les poches. Je ne sais pas comment ils étaient tous unanimes, sur la personne de Monsieur Manga, sans que en fait, l'Église catholique puisse en fait comprendre le jeu, et résumer que c'est une Église crédible.
Maurice, on va éclairer la lanterne des uns et des autres, nous vous gardons toujours en ligne, parce que notre invité est là, en ligne, il s'agit bel et bien de Monsieur l'abbé José Pundu, qui connaît bien, le psychologue de formation, et puis bon, il a évolué pas mal dans la société civile, et c'est lui qui est notre invité, qui sera, qui est d'ailleurs notre invité, qui est déjà en ligne. Alors, Monsieur l'abbé José, vous êtes avec nous, bonjour. Monsieur l'abbé José Pundu, bonjour. Voilà, monsieur l'abbé, voilà des petits soucis avec la ligne de l'abbé José Poundou. On va récupérer Maurice. Maurice,
disons ceci.
Oui.
Donc la réforme s'avère irréversible. C'est-à-dire, nous devons passer par la réforme, par la restructuration de la CENI. Parce que cette procédure-là, de la majorité des confessions religieuses, n'a rien donné en 2006 comme en 2011. Aujourd'hui, nous devons aller vers la réforme. Donc, nous devons faire table rase et sur le plan juridique et sur le plan politique de cette CENI, parce que c'est vraiment cette institution, cet organe qui est en train de déranger le pays. C'est cette institution qui nous a amené la fraude électorale, une fraude électorale qui a produit les acteurs actuels, les régimes actuels, qui a mis le pays à genoux. Et aujourd'hui, le pays est pauvre.
Voilà, merci. Merci beaucoup, Maurice. Voilà, merci beaucoup, Maurice. Je crois qu'on va, on aura notre invité d'un moment à l'autre qui pourrait éclairer la lanterne des uns et des autres. Et nous allons prendre Pompon qui est à Lubumbashi. Pompon, bonjour.
Bonjour, M. JL. Je dis bonjour à notre invité, expert en psychologie, sans pas oublier tous les auditeurs de la radio classique aussi à ce moment.
Voilà, Pompon, vous avez la parole. Vous avez suivi vos prédécesseurs qui ont évoqué par rapport à cette thématique leur point de vue. Et il y a Maître Sonville qui a évoqué quelques cas passés qui ont fait que aujourd'hui tout le monde craint que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Alors Fabien, lui, il a insisté pour dire ben voilà, nous sommes en démocratie, c'est la loi de la majorité. Ces choix de Corneille Nangaa ne peut en aucun cas faire l'objet des controverses. Alors, parce que nous n'avons pas assez de temps pour retenir notre invité, il est vraiment en pleine session quelque part au niveau de Mboudi. Monsieur l'abbé José Poundou, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour.
Alors, si vous pouvez peut-être nous aider à nous faire une idée très claire sur la position de l'Église catholique à ces jours. Le choix de Corneille Nangaa n'a pas fait l'unanimité. Selon l'Église catholique du Congo, des divergences profondes non vidées ont apparu entre les confessions religieuses lors de leurs échanges au centre interdiocésain. Mais ce n'est pas la première fois. C'est la raison pour laquelle les gens finalement se posent la question qu'est-ce que l'Église veut concrètement?
Bon, écoutez, d'abord, je dois vous avouer que je ne suis pas la personne indiquée pour donner la position de l'Église officielle. Hein. En tant qu'institution, l'Église a des personnes autorisées, par exemple le secrétaire général de la conférence épiscopale ou le président de la conférence épiscopale ou parmi les secrétaires généraux adjoints. Il y a des gens qui sont autorisés, des voix autorisées pour dire exactement la position de l'Église et qu'est-ce que l'Église veut et tout. Moi, tout ce que je peux dire, c'est ma position en tant que José Mpundu, chrétien de l'Église catholique romaine et prêtre de l'Église catholique. Je peux donner un point de vue qui n'engage que moi, ok?
Allez-y, monsieur l'abbé.
Alors, mon point de vue, c'est lequel? Mon point de vue, c'est que... En remettant en question le choix qui a été porté sur Monsieur Corneille par 7 des confessions religieuses sur 8, et donc on dit l'Église catholique, comme elle avait fait pour l'abbé Malumalu, n'a pas donné sa voix pour Monsieur Corneille. Eh bien, aujourd'hui, ce que je crains personnellement, c'est que en voyant comment l'opposition récupère cette position de l'Église catholique, eh bien, ça risque de nous conduire à un blocage, hein, à une difficulté pour remettre la machine en route, hein, la machine électorale en route, hein, qui a été quelque peu grippée avec ce départ de l'abbé Malumalu. Eh bien, il fallait rapidement trouver quelqu'un pour remettre le véhicule en route. Hein. Eh bien, ça va risquer de compliquer l'équation. Hein. C'est ça la crainte que j'ai, n'est-ce pas? Et d'un autre côté, lorsque la majorité, bon, disons, accueille ça avec beaucoup de joie, positivement, en disant il a les compétences. Effectivement, Corneille a les compétences. Il a travaillé dans la commission électorale indépendante depuis un certain temps. Il maîtrise un certain nombre de données par rapport aux élections dans notre pays et même en Afrique, parce que il a une expertise même africaine. Et puis il a été dans le bureau, donc disons dans le bureau de la CENI. Et donc il est le fils de la maison, il connaît bien les problèmes de la CENI, n'est-ce pas? Il peut donc être une personne ressource pour apporter un certain nombre de solutions aux problèmes qui se posent. Mais maintenant, nous ne trouverons jamais quelqu'un de parfait. Et alors, si à chaque fois qu'on met quelqu'un, il y a une partie qui s'oppose, eh bien, il y a un problème pour le fonctionnement de cette institution.
Oui, mais la grande question, il y a une partie qui s'oppose parmi les huit, il n'y a que l'Église catholique qui s'oppose. C'est là où d'aucuns se posent la question si vraiment l'Église catholique cherche un ange à placer au niveau de la CENI.
Ben, y a là quelque chose que je vous inviterai à demander aux responsables de l'Église catholique, donc par exemple au secrétaire général, l'abbé...
Léonard Santédi.
Léonard Santédi, s'il est ici, soit à un des adjoints qui ont été à cette rencontre, eh bien, ce qui est peut-être difficile à comprendre, quand c'était un abbé, un prêtre, et que l'Église catholique au Congo avait dit on ne veut plus des prêtres dans ce genre d'institution, eh bien, on peut encore comprendre. Et puis, on dit, maintenant c'est un laïc. Bon. Un laïc qui n'est peut-être pas catholique, il serait peut-être protestant ou quoi, mais peu importe, il est laïc. Hein. Alors, à partir du moment où on a un laïc, où est maintenant le problème? Est-ce parce que le laïc en question n'est pas venu de l'Église catholique ou parce que le laïc en question ne répond pas aux critères? Quel est le vrai problème? Quels sont les vrais arguments qui militent dans le sens de mettre en cause le choix porté sur Monsieur Corneille? Ça, c'est la question qu'il faut poser à ceux qui ont représenté l'Église catholique au cours de cette rencontre, au cours de cette réunion.
Oui, mais parce que ce n'est plus un secret. Le secrétaire général de la CENCO l'avait si bien dit. Il dit que les divergences portaient sur, en fait, les discussions, les échanges au niveau de débat, donc portaient sur les principes majeurs à respecter avant de désigner Corneille Nangaa. Alors, c'est là où maintenant les gens qu'on continue à réfléchir pour dire, bon, en des termes clairs, vous en tant que psychologue, quand on parle de principes majeurs.
Oui.
Alors c'est là que là où il y a un flou, la population n'arrive pas à comprendre.
Eh bien, il faudrait peut-être revenir à la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI. Hein. Dans cette loi, il y a des critères qui ont été donnés. Hein. On parle de quelqu'un qui soit indépendant, quelqu'un qui soit honnête, incorruptible, quelqu'un qui a la compétence, qui maîtrise le domaine. Eh bien, il y a un certain nombre de critères qui ont été donnés. La question, c'est de savoir, est-ce que M. Corneille remplit-il ces critères totalement ou à 9 dixièmes ou à 8 dixièmes, hein, bon, est-ce qu'il remplit oui ou non ces critères? Voilà la question qu'on devrait se poser.
Voilà, si vous nous accordez encore 4 minutes, le temps de rappeler à nos auditeurs qu'ils peuvent participer à ces débats en composant les 081-890-6315 pour les interventions en direct.
Parole aux auditeurs.
Nous prenons Jules qui est à Kisangani et Pompon à Lubumbashi. Jules, vous êtes à Kisangani. Bonjour, Jules.
Ouais, bonjour, monsieur Jules.
Vous avez la parole, Jules.
Ouais, vraiment, c'est désolé ici en RDC, puisque à chaque fois qu'on désigne quelqu'un au niveau de la CENI, il y a toujours des contestations. Alors, on n'arrive pas à comprendre si c'est quoi, si c'est qui. Alors, si c'est, à mon humble avis, moi, j'ai jugé bon de ne pas choisir les gens de confession religieuse. S'il faut choisir où ça, c'est quelqu'un de la société civile. Puisque en 2006, on avait choisi Apollinaire Malumalu comme le président de la CENI, c'était toujours des contestations. En 2011, 2011, on avait choisi l'autre là, Daniel Ngoy-Moulunda. Il y avait toujours des contestations. Alors, Circe, moi, j'ai jugé, bon, que cette fois-ci, il faut qu'on choisisse au moins quelqu'un de la société civile, puisque vraiment, on voit que hier, ça ne va pas. C'est ça aussi mon souci là, vraiment de choisir quelqu'un de la société civile au niveau de cette commission. Puisque nous tous ici, on sait bien que non, la CENI c'est une institution à la démocratie. Mais s'il y a toujours des contestations comme ça, il y a vraiment un grand problème.
Oui, mais
les gens là des catholiques refusent l'autre là de l'eau et refusent Cornel. Alors si on passait aux élections et puis que la partie, soit l'opposition, soit la majorité remporte le pouvoir. Là, on peut dire que non, voilà, si nous on avait refusé à ce qu'on mette l'autre, ce qu'on mette le monsieur la Cornel au niveau de la tête de la CENI, voilà, aujourd'hui, il y a toujours des contestations. Alors, si c'est à mon avis, moi j'ai jugé bon de mettre quelqu'un de la société civile au niveau de cette institution.
Oui, mais il y a déjà les membres de la société civile parce qu'on dit, la loi dit, en son article 10, la composition faite de bureaux, il y a 13 membres. Les trois autres vont sortir donc de la société civile. Un membre de confession religieuse et l'autre de la composition féminine, des droits de la femme, pardon, et puis l'autre de la société civile. Mais alors, je crois que les législateurs avaient déjà réglé ces problèmes, Jules.
Oui, bien sûr que les législateurs avaient prévu ça, mais
ils l'avaient déjà prévu.
Puisque en 2006, il y avait toujours des problèmes. En 2011,
voilà, merci.
Il y a toujours des problèmes.
Mais
là, nous suivons aussi l'année électorale. Alors, que fait-je, nous, la RDC? Mais vraiment, nous sommes dans une imbroglio de choses que nous n'arrivons pas à comprendre. Mmh. Alors, si c'est. Qu'est-ce que nous allons prendre comme des décisions?
Voilà,
qu'est-ce que nous allons prendre comme des mesures appropriées? Alors, si c'est le cas, s'il faut mettre quelqu'un de la société civile au niveau de la tête.
Merci beaucoup, Gilles. C'est votre proposition. Olivier, vous êtes à Kikwit. Bonjour.
Oui, bonjour, JR, et bonjour à tous les auditeurs.
Vous avez la parole, Olivier.
Oui, voilà. Je pense que nous devons pleurer et rire en même temps. Parce que l'Église catholique, bon, enfin, moi, je comprends sa logique. C'est-à-dire que du moment où il y a une petite irrégularité, elle est obligée de se rétracter. Parce que l'irrégularité, c'est contre la logique même de l'Église. Il a été, comme venait de dire la
ministre, voilà, on a le petit souci avec votre ligne, Olivier. Est-ce que vous pouvez peut-être vous déplacer un tout petit peu? Parce que là, il y a des micro-coupures. Ça nous empêche énormément de suivre. Okay. Oui.
Il y a une réalité de cette procédure. L'Église est obligée de dire, en tout cas, un acte parce que c'est irrégularité. Donc, c'est comme ça que nous devons comprendre cette position-là. Mais ce qui est dommage, c'est que, effectivement, les irrégularités, ça devient notre façon de vivre. Alors, il faudrait maintenant qu'on comprenne aussi autre chose. L'Église veut seulement éveiller les consciences. Nous sommes en train de fonctionner dans les irrégularités. Et ça demande que tout citoyen congolais comprenne que même si aujourd'hui on met dehors Corneille, il y aura une autre irrégularité qui va placer quelqu'un d'autre. Alors, nous devons ouvrir l'œil. Corneille va être là, parce que maintenant, je pense qu'on va faire marche arrière. La Cour constitutionnelle, le Parlement, et il y a les textes, toutes ces histoires-là, toutes ces institutions, de nous aider à placer quelqu'un. Corneille est là. Acceptons-le, malgré l'irrégularité, parce que ça devient un mode de vie. Alors, les Congolais, ce que nous devons faire, il faudrait qu'on arrive aux élections. Avec quoi? Avec notre vigilance. Il faudrait que chaque Congolais comprenne que Corneille est là. Il a peut-être un objectif. Et c'est un objectif qui a été déterminé par qui? C'est ça le problème. On peut dire, oui, la majorité. Mais il y a aussi l'opposition. Chaque parti a
un agenda.
Et il doit travailler pour la République. Donc, l'objectif.
Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup.
Congolais, c'est d'aider Corneille à travailler pour la République. Et s'il va à gauche et que nous constatons qu'il va à gauche, nous avons le devoir de le redresser. Moi, je pense qu'on ne doit pas qu'on avait l'Église catholique. Elle a marché dans sa logique. Et nous tous, Congolais, nous sommes obligés de soutenir
le nouveau président.
Oui. Avec ou sans Corneille. Mais nous avons un devoir, c'est redresser tous les malins qui seront là. Corneille y compris, nous devons le redresser. C'est ça ma position. Je pense
merci. Nous devons faire un effort. Merci beaucoup, Olivier. Alors, monsieur l'abbé José Poundou, réaction? Voilà, on a des petits soucis encore avec la ligne de notre invité. On va prendre plutôt José qui est en Boujimaï. José, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à tous vos auditeurs.
Oui, vous avez la parole, José.
Ok, merci beaucoup. La première inquiétude que j'ai est de constater que nous nous attendions un représentant valable de la CEMCO pour qu'il puisse affronter la spirale des questions que nous avons à lui poser. Mais hélas, notre invité de tout à l'heure, Jean Filigrane, semble aussi venir pour se poser toute une multitude
de questions.
Et ça nous inquiète davantage.
Tout à fait.
Au-delà de ça, l'estime que nous avons pour les confessions religieuses, avec les scénarios, les imbroglios qui sont en train de nous offrir au jour d'aujourd'hui, présage déjà un avenir vraiment noir, ombrophile pour ce pays de par les confessions religieuses. Nous avions cru à tort qu'en mettant les confessions religieuses, on pouvait redresser certaines histoires qui sont restées latentes. Mais hélas, nous avons le regret de constater qu'il y a des divergences qui quittent même la religion, qui viennent dans la masse, qui découragent certaines âmes au risque et péril de ces mêmes églises. J'avais une préoccupation pour l'église catholique. C'est comme a commencé Cicéron dans les Catilinaires. Quousque catholica patens abutera nostra. Église catholique, jusqu'à quand abuseras-tu de notre patience? Tu as refusé quelque chose de simple. Mais pour ne rien proposer à lieu place, ça sent le problème, c'est ça la grande inquiétude. Ça frise une tentative de blocage inutile dont le pays n'a pas besoin au jour d'aujourd'hui. Monsieur le journaliste, toutes ces questions que la population se pose, c'est dire que la CENI, c'est un organe qui intéresse toute une communauté aujourd'hui, c'est-à-dire entre les mains de la CENI se trouve la vie de son pays. Alors, il fallait traiter ce dossier de la CENI avec délicatesse. Mais au-delà de tout ça, votre prédécesseur, je crois le deuxième intervenant de Calémy, a prétendu jeter de l'opprobre ou bien tirer un boulet rouge sur l'église catholique. On ne vient pas faire ici la pub des églises. Nous nous basons sur les faits et les faits réels. L'église catholique, nous connaissons son poids via le monde. Prise individuellement par rapport à d'autres confessions religieuses, nous savons le poids de chaque église. Ça, mettons de côté. Mais il aurait été mieux, il aurait été judicieux qu'on puisse sculpter les problèmes. J'ai comme l'impression que le cardinal à la tête de l'église catholique au Congo, avec le chef de l'État, ça ne tourne pas, j'ai comme l'impression. Puisqu'il y a eu un discours que le cardinal aurait prononcé une fois, un gouvernement qui ne s'occupe pas du social et de la population, c'est un gouvernement sans objet, vous vous souviendrez. Sûrement que ce discours-là avait engendré toute une pile de réactions dans la majorité et depuis lors, les relations sont tournées entre les deux institutions.
Oui, oui, oui. Alors, comment vous commentez-vous, José, personnellement, parce qu'il y a certains observateurs qui estiment qu'au regard de toutes ces tractations, de tous ces événements qui ont émaillé donc le processus électoral depuis 2006 et surtout autour de Schwab, de celui qui doit être aux commandes donc de la CENI, on conclut du fait du coup comme ça que c'est et la CENI aujourd'hui ce n'est plus une institution citoyenne mais c'est plutôt une institution politique, tout est politisé.
Oui, tout à fait, je suis contraint de partager cet avis là. Tout est désormais politique, tout est désormais piloté par la politique. C'est comme le prédécesseur venait de dire tantôt là, le maître de Moïse de quoi ça, de Lubumbashi. Monsieur Malumalu, avec tout le respect qu'on doit à la religion ou bien à son rang, il est désormais, Ngoï Moulunda plutôt, il est désormais un intervenant, un porte-parole, si on peut exagérer comme ça, du chef de l'État dans les Katanga. Il était hier à la CENI, nous connaissons ce qui s'est passé. Désormais, tous ces gens-là, ils passent avec des intentions, non pour la population, mais pour leurs propres intérêts, pour leurs propres poches, alors que nous avions du respect pour y remédier. Moi, je préconise que l'on puisse faire table rase de toutes les lois qui parlent de la CENI, de toutes les organisations, commençant par l'administration jusqu'à la technique, et que l'on puisse peut-être réorganiser les histoires d'une autre façon, en responsabilisant cette fois-ci encore une fois la société civile. Peut-être que les choses pourront changer, sinon nous serons dans la spirale infernale du chaos.
Merci beaucoup José d'avoir appelé de Mbujimayi. Namur, vous êtes à Bukavu. Bonjour Namur.
Bonjour.
Vous avez la parole, Namur.
Savoir d'abord si M. Corneille aura la politique et les moyens pour pouvoir travailler. Parce que si Malumalu a pu démissionner, il vous souviendra que la CENI n'a obtenu que 17% pendant les 3 ans. Est-ce que Corneille a avancé comme allégation de pouvoir obtenir des financements afin qu'il nous fasse arriver aux élections à temps. Deuxième préoccupation, la loi mettant en place la CENI préconise la représentation nationale. Vous trouvez très bien que la province du Nord Kivu est déjà déconfigurée et au profit de la province orientale qui jadis avait 2 représentants. Présentement, la province orientale démembrée compte 3 personnes et la province du Nord Kivu n'a aucune personne. Et si le prophète Élie, qui avait peut-être voulu qu'il soit succédé par Élisée, alors je parle de Marigny et de Corneille. Élisée a voulu obtenir le double du cœur de l'esprit d'Élie. Est-ce que cet homme ici ne voudrait pas également s'éterniser au pouvoir comme Marigny s'est éternisé en changeant plusieurs fois les statuts de l'Église du Christ au Congo parce que moi-même.
Voilà, on ne fait pas les débats sur. Il ne faut pas personnaliser les débats, Namur. Oui, Namur, ne déplaçons pas les débats.
Oui.
Oui, Namur, juste un conseil, ne déplacez pas les débats. C'est pratiquement le choc d'idées. Nous on fait des réflexions sur l'avenir de la CENI et par rapport à ses choix et par rapport aux événements passés. Donc ne focalisons pas les débats sur les individus parce que là finalement nous risquons de biaiser un peu les choses. Merci beaucoup Namur. On va prendre Jules qui est à Ariwara. Jules, vous êtes avec nous, bonjour. Vous avez la parole, Jules.
Oui, Jules le Bomba Kadipi. Oui, moi j'aimerais dire ceci. Je le dis avec beaucoup de regret parce que pour moi je vois que l'Église catholique pense que sache que d'abord tout ce qu'elle fait c'est une distraction et c'est une distraction qui va nous amener nulle part et à rien. Pourquoi? Parce que chaque fois que nous voulons organiser les élections, c'est toujours l'Église catholique qui arrive soudainement avec des embêtements inutiles. Et c'est une minorité d'abord, sache qu'elle est comme une goutte d'eau dans une mer ou
dans un océan.
Je sais même pas. Et je dirais que l'Église catholique sache que le monsieur qui est élu, on l'a désigné.
Par consensus.
Oui, confession ouais. Religieuse, c'est déjà une voix divine, parce qu'on dit souvent la majorité, c'est. D'ailleurs, voilà. La confession religieuse, oui, confession religieuse, déjà, c'est quelque chose de bon. Que le monsieur là reste, il est élu. Si l'Église catholique pense mettre à la tête un ange, pour nous, cet ange-là, c'est le monsieur Corneille, pour être, c'est tout. Que l'Église catholique nous laisse avec des.
Voilà, c'est votre. Nous vous les concédons. Jules, merci beaucoup d'avoir appelé de Ariwara. Là, nous sommes à Ituri, 081-890-6315 pour votre intervention en direct.
Parole aux auditeurs en direct de Lubumbashi le mercredi 28 octobre 2015 de 11h à 12h15 local.
Je m'appelle Robert.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga.
Venez nombreux, vous tous, acteurs politiques, société civile, étudiants, à cette grande émission au centre Aroupé, sur l'avenue Kinela Balanda, commune de Lubumbashi, prendre la parole dans cette édition spéciale pour les 70 ans des Nations Unies.
Ismaël, vous êtes à Lubumbashi dans la province.
Félicien, vous êtes à Kinshasa.
Josephine, vous êtes à Boston aux États-Unis.
Et aussi notre ami Marc Ebamba de Kisangani.
Au menu, le bilan des activités des Nations Unies en RDC et d'autres sujets qui vous concernent. Parole aux auditeurs en direct de Lubumbashi, c'est le mercredi 28 octobre 2015 de 11h à 12h quart local au centre Aroupé avec Pierrot et la Mégie. Parole aux auditeurs, à vous la parole.
Merci une fois encore de votre fidélité à Radio Okapi. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans Parole aux auditeurs, votre magazine d'échange citoyen. Et notez que c'est rendez-vous de 28 octobre, donc le mercredi prochain, à la salle AOP de Lubumbashi, avec Pierrot et la Mégie, Julie Feza Bongonda et toute l'équipe, bien entendu, Karine Topé, pour produire une émission autour du bilan de activités des agences des Nations Unies en RDC. Ben voilà. On va poursuivre avec parole aux auditeurs. Jules venait de parler. Nous prenons un auditeur qui nous a rejoint par rapport à ces débats. Il s'agit bien de l'honorable Dieudonné Mwenze, qui est le communicateur de la majorité. Voilà, honorable Dieudonné, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous avez la parole, honorable.
Merci bien. Je voudrais d'abord saluer tous les auditeurs de la radio Capi. Et aussi préciser une chose par rapport au sujet qui est en débat maintenant. Il faut avouer, monsieur le journaliste, que la majorité présidentielle, la plateforme politique à laquelle moi j'appartiens, ne s'est jamais mêlée, alors jamais mêlée, aux dernières concertations qui ont eu lieu au centre diocésain de Kinshasa et qui ont conduit à la désignation de monsieur Corneille Nangaa comme remplaçant de monsieur l'abbé Malumalu qui a démissionné depuis le 10 octobre dernier. Donc ça doit être entendu et je crois que la majorité présidentielle a très peu de temps d'ailleurs pour préparer les prochaines élections, que nous ne pouvons pas nous mêler des affaires vraiment intérieures des confessions religieuses. Donc ça, je crois que c'était une précision qui était importante à donner. Mais par rapport à ce que j'entends, la majorité présidentielle a accueilli avec joie la désignation de Corneille Nangaa. Non, il ne faudra pas que les gens fassent une fausse interprétation. La majorité présidentielle attendait que les confessions religieuses, depuis le communiqué de la présidence de la République, le 10 octobre dernier, le jour que M. l'abbé Malumalu déposait sa démission auprès du président de la République, Joseph Kabila. Donc, il était prévu que réellement, selon ce communiqué, que la société civile puisse nous désigner un remplaçant de M. l'abbé Malumalu. Donc, cette désignation s'est faite conformément à l'article 10 de la loi qui organise la CENI. Donc, nous attendions un délégué désigné par les confessions religieuses qui devait réunir les deux critères importants pour nous. C'est d'abord la technicité éprouvée, et en plus de la technicité, il faudra que ça soit une personne qui a une probité morale incontestée. Donc, nous croyons, du moment qu'on nous a présenté le profil de Monsieur Corneille, nous nous rendons compte que c'est un monsieur qui a évolué pendant longtemps à la CI, puis à la CENI, et que il est proposé par les confessions religieuses, ces structures de la société auxquelles nous croyons encore jusque-là. Donc nous pensons qu'il s'agit de quelqu'un qui a une probité morale, puisque la technicité est déjà prouvée. Donc c'est comme ça que nous saluons cette désignation. Sinon nous devions faire comme tout le monde et dire que bon, nous ne voulons pas décorner, mais je ne sais pas si on va faire avancer le pays.
Voilà. Alors,
je ne voudrais pas accepter.
Oui,
je ne voudrais pas accepter que l'opinion comprenne que dans ce qui nous arrive aujourd'hui comme malheur ou comme blocage du processus électoral, c'est l'Église catholique qui est à la base. Non, je crois que nous devons encore faire confiance. Nous sommes des croyants. Nous devons encore faire confiance à nos prêtres, à nos pasteurs d'Église, puisque quand ils parlent, nous croyons qu'il y a un maximum de vérité dans ce qu'ils disent. Nous l'avons entendu tous. Il s'agissait des candidats proposés par l'Église catholique. Finalement, ces candidats sont restés à deux. L'Église catholique retire une candidature et préfère se rétracter. Je crois qu'on n'aura pas des anges à la tête de la CENI. Ça ne sera que des Congolais, des personnes qui ont leurs qualités et leurs faiblesses. Mais si aujourd'hui l'Église catholique refuse la candidature de Corneille Nangaa, demain c'est l'Église catholique qui propose une autre candidature comme c'était en 2013. Et si une autre Église refuse la candidature qui sera proposée par l'Église catholique, nous allons arriver où ? Je crois que ça doit être compris que nous avons besoin d'évoluer dans ce processus électoral, nous avons besoin de faire avancer le pays, et pour ça nous devons nous faire violence. La démocratie a aussi ses principes, comme la démocratie a aussi ses revers. Et aujourd'hui, le revers, c'est lequel ? Le revers, c'est que sur 8 confessions religieuses, il y a 7 confessions religieuses qui jettent leur dévolu sur un candidat. Qu'est-ce que vous voulez que nous fassions chez nous à la majorité ?
Alors, honorable,
nous acceptons la candidature puisque les deux critères sont réunis.
Alors, honorable, fait que tout le monde aujourd'hui réclame les dialogues, parce que tout le monde reconnaît qu'il y a eu des scrutins chaotiques qui ont été organisés, et même un auditeur a évoqué les propos de pasteur Ngoï Mulunda qui annonce d'ailleurs la publication prochaine d'un ouvrage sur les élections chaotiques. Alors, donc, comme pour dire, tout le monde réclame des dialogues pour, au fait, corriger les erreurs du passé. Et à cela, certains vont même plus loin pour dire la CENI quitte le statut d'une institution citoyenne pour se muer à une institution politique. Raison pour laquelle aujourd'hui, des gens qui ont été à la tête de la CENI autrefois, aujourd'hui, se réclament de la majorité. C'est, au fait, c'est cela la difficulté.
Non, je crois qu'il y a des choses qu'il faut préciser, monsieur le journaliste. D'abord, je dois réaffirmer tout de suite que la Commission électorale nationale indépendante est une institution d'appui à la démocratie, conformément à l'article 211 de notre Constitution. Donc, une institution qui se veut indépendante et qui ne doit pas être inféodée. Et nous faisons cet effort, nous, chez nous, à la majorité présidentielle, pour que des personnalités qui vont animer cette institution soient des personnalités réellement indépendantes, même si elles sont issues des composantes. Donc, le dialogue, comme vous l'avez dit, le dialogue reste incontournable. Le dialogue reste incontournable. L'initiative du chef de l'État qui a été prise depuis le mois de juin doit être suivie par ceux qui encore aujourd'hui continuent à hésiter, qu'ils comprennent que nous sommes vraiment bloqués. Aujourd'hui, à la CENI, il n'existe aucun calendrier, puisque même si M. Corneille Nangaa arrivait demain à la CENI, faut pas croire que ça sera la solution magique, comme par un tour de main, que tout va se résoudre au sein de la CENI. Non, nous avons encore beaucoup de problèmes. Le calendrier n'est pas respecté jusque-là. Les élections qui devaient s'organiser ne s'organisent pas. Hier, ça devait être les élections provinciales qui n'ont pas eu lieu. Et la CENI elle-même s'est plainte d'avoir des moyens insuffisants pour financer les élections. Donc vous comprenez que nous devons nous retrouver autour d'une table et nous parler. Puisqu'au moment où nous parlons, certains parlent des glissements, certains disent qu'il faut respecter les délais constitutionnels. Nous devons arriver à ça qu'en nous parlant vis-à-vis autour d'une table. Toutes les couches sociales doivent se réunir, société civile, opposition politique et majorité, pour qu'on se dise ouvertement qu'est-ce que nous devons faire pour débloquer le processus électoral en tenant compte de tout ce qu'il y a comme impératif aujourd'hui. Les uns disent qu'il faut enrôler les nouveaux majeurs, les autres disent qu'il ne faut pas les enrôler. Non, nous devons prendre une décision ensemble. Les autres parlent de la participation aux élections de Congolais de la diaspora. Les autres disent qu'on n'a plus de temps de pouvoir ouvrir ces bureaux d'enrôlement, ces bureaux de vote en dehors du pays. Donc ce sont des conditions qui peuvent nous amener à un calendrier consensuel, à un consensus politique pour pouvoir accepter tout cela où nous devons arriver et qu'est-ce qui peut nous arriver pour que ça ne soit pas la solution celle de la CENI. Et j'ai toujours dit que la CENI est une institution hautement technique, nous devons la laisser en dehors de la politique. Donc ici, il s'agit des questions essentiellement politiques et qu'il faut résoudre sur le plan purement politique. Et pour les résoudre sur le plan purement politique, il faut qu'on se retrouve les trois composantes, comme les autres étaient en concertation, qu'on se retrouve dans un dialogue politique inclusif voulu de tout le monde, par les résolutions des Nations Unies, par tous ces émissaires des Nations Unies qui passent, que ce soit l'ambassadeur Thomas Perriello, que ce soit dernièrement Madame Sarah Sewal, qui rappelle toujours la nécessité d'un dialogue
inclusif politique pour que tous les fils du pays se retrouvent. Donc je profite de l'occasion pour appeler ceux qui hésitent encore, ceux qui traînent encore, de pouvoir rejoindre l'initiative du chef de l'État pour qu'on se retrouve, qu'on se parle tous unanimement et qu'on dégage la voie pour le processus électoral à venir.
Alors une dernière question, c'est vrai, bon, c'était pas prévu, honorable Dieudonné, parce que vous nous avez rejoint, on ne savait pas que voilà vous allez intervenir, mais il y a un auditeur qui a évoqué tout à l'heure, en tout cas, qui réclame en fait une seconde réforme de la CENI, vu les désaccords, les contestations qui émaillent en fait les choix de celui qui remplacera, qui remplace donc l'abbé Apollinaire Malou. Il faut carrément penser à refondre toutes les lois et puis refondre carrément la CENI.
Non, je ne suis pas contre d'emblée, mais je vous dis qu'il s'agit d'un point de vue tout à fait d'un auditeur et c'est son point de vue le plus légitime. C'est aussi ça la démocratie. On doit permettre aux Congolais de pouvoir penser aussi différemment. Mais nous disons simplement que nous avons un problème de temps. Le temps est contre nous, le temps nous talonne. Le temps n'est pas avec nous, le temps nous accompagne plus. Est-ce qu'en procédant de la manière que l'auditeur propose, nous n'allons pas encore tomber dans ce que les gens craignent aujourd'hui, glissement, non-respect des délais constitutionnels. C'est pour cela que tous ces sujets doivent être débattu dans un dialogue politique inclusif. Qu'on nous amène tous ces sujets, nous allons voir comment nous allons débattre ensemble. S'il faut procéder par la réforme totale, la restructuration totale de la CENI, il faut comprendre par là que ça a un coût. Le coût, notamment, ça peut être le temps. Et à ce moment-là, si c'est le temps, nous devons être conséquents avec nous-mêmes. Comme je le disais, l'enrôlement de nouveaux majeurs, nous devons nous dire ça a un coût pas simplement en termes d'argent, mais aussi en termes de temps dans un pays mini-continent comme le Congo. Donc nous devons nous entendre sur tout ça et procéder de manière consensuelle à toutes ces opérations. Et j'ai entendu même d'autres dire non, il ne faudra pas que le président de la CENI puisse venir de la société civile, et il ne doit pas venir de confession, il faut essayer avec d'autres. Non, là c'est la loi qui organise la CENI. Mm-hmm. Mais s'il faut revoir l'article 10 l'article 10 de la loi qui organise
parle de la désignation,
ça veut dire qu'il faut encore une révision de cette loi. Ça va prendre du temps. Ce sont des questions qu'il faut venir vers.
Voilà, merci beaucoup.
Politique inclusive où nous allons nous parler convenablement, baliser la voix. On écoutera tout le monde.
Voilà,
on
merci beaucoup.
Convenable, et cette fois-là, nous serons engagés tous de tout ce qui peut arriver.
Voilà, merci beaucoup, honorable Dieudonné Mwenze, d'avoir participé à ces débats. André, vous êtes à Kinshasa. En tout cas, on n'a plus assez de temps. 30 secondes, André.
Allô?
Ah oui, André, vous avez 30 secondes simplement.
Oui, monsieur Guillaume, bonjour.
Oui, allez-y, André.
Oui, je devrais dire ceci comme vérité. Hein. Vous savez, l'Église catholique vraiment a vraiment l'importance dans notre pays.
Voilà, merci, désolé, dommage André, on ne saura pas à continuer avec vous, hein. Le temps nous talonne, donc nous sommes obligés de nous arrêter là. Merci à Hippolyte Kapanga d'avoir eu à mettre en onde donc cette émission qui vous a été coordonnée et présentée par J.R. Lungembo sous la supervision de Léonard Moulamba. On se retrouve demain pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur Okapi.